Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la sainte sourate Qari'a. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaitanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَهْ صدق الله العلي العظيم.
Le coup. Qu'est-ce que le coup ? Et qui te dira de ce qu'est le coup ? Le jour où les gens seront comme papillons éparpillés et les montagnes comme laine cardée, alors, quant à celui dont les balances seront lourdes, alors il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont les balances seront légères, alors sa destination est une fosse. Et que sais-tu de ce qu'elle est ? Un feu ardent.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur onde courte, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le mercredi 23 Azar 1401 du calendrier iranien, 14 décembre 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information. Ensuite, notre commentaire politique. Message de condoléances du leader de la révolution islamique à l'occasion de la mort en martyr de Maulavi Abdelwahed Righi. Message de condoléances du leader de la révolution islamique à l'occasion de la mort en martyr de Maulavi Abdelwahed Righi. L'Iran est en possession de missiles que les États-Unis ne peuvent même pas imaginer, a déclaré le commandant de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique. Tous les pays doivent respecter l'intégrité territoriale de la République islamique d'Iran, a dit le vice-président iranien Mohammad Mokhber. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Dans un message de condoléances à l'occasion de la mort en martyr du religieux sunnite iranien Maulavi Abdelwahed Righi, le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a insisté sur la condamnation immédiate et sérieuse des criminels par les appareils concernés. Suite à l'enlèvement et l'assassinat de Maulavi Abdelwahed Righi, le leader de la révolution islamique a présenté ses condoléances et a appelé les responsables du pays à poursuivre et condamner les criminels. Le commentaire politique d'aujourd'hui a été consacré à ce sujet. Le commandant de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique affirme que l'Iran est en possession de missiles que les États-Unis ne peuvent même pas imaginer. S'adressant mardi aux participants à une cérémonie à l'université Imam Hussein à Téhéran, le contre-amiral Alireza Tangsiri a déclaré « Ce que l'Iran a montré dans diverses manœuvres n'est pas ce que le pays utiliserait en cas d'une guerre éventuelle. Aujourd'hui, nous avons des missiles auxquels les Américains ne pensent même pas », a-t-il ajouté. Il a noté que la République islamique d'Iran était le seul pays qui a réussi à installer des missiles sur des bateaux de 6 à 8 mètres de long, soulignant que les ennemis extra-régionaux n'ont pas la capacité d'atteindre le pays par le golfe Persique, la mer d'Oman et l'océan Indien pour le vaincre. Bien que la nouvelle déclaration anti-iranienne du Conseil de coopération du Golfe Persique, publiée en présence du président chinois à Riyad, ait suscité la condamnation de l'Iran, Téhéran et Pékin réitèrent leur ferme volonté commune de réaliser le plan de coopération de 20 ans. Lors du sommet sur le pacte stratégique global de coopération entre l'Iran et la Chine, mardi, tenu en présence du vice-premier ministre chinois et d'une délégation chinoise de haut rang, le premier vice-président iranien, Mohammad Mohber, a qualifié les relations des deux pays d'historiques et a déclaré « Les relations entre Téhéran et Pékin sont d'une importance toute particulière pour les autorités des deux pays et le président de l'Iran suit sérieusement les relations entre les deux pays. » Le premier vice-président iranien a évalué la rencontre entre les présidents iraniens et chinois à Samarkand comme un point culminant dans les relations bilatérales et a remercié le président chinois pour son soutien à la présence de l'Iran dans les organisations telles que l'Organisation de coopération de Shanghai et les BRICS. En Europe, l'énergie demeure un facteur clé de la performance économique et boursière à court terme. À l'aube de l'hiver, les pays de l'Union européenne n'ont toujours pas réussi à surmonter leur profond désaccord sur le plafonnement du prix du gaz naturel, alors qu'ils s'efforcent de protéger efficacement 450 millions de citoyens contre des augmentations massives de leurs factures. Les ministres de l'énergie de l'Union européenne se sont réunis à Bruxelles mardi et ont tenté d'aplanir leurs divergences sur la manière de réduire la crise énergétique de l'Europe et de trouver des moyens d'acheter du gaz ensemble, ainsi que sur les mesures à prendre pour accélérer les autorisations pour les installations d'énergie renouvelable. Cependant, leurs efforts pour parvenir à un consensus a été vain et les ministres ont finalement laissé l'ensemble des questions non résolues aux négociations la semaine prochaine. Les États-Unis seraient en passe de finaliser leur plan d'envoi de systèmes de missiles Patriot en Ukraine, allant à l'encontre d'un avertissement de la Russie sur le déploiement des armes dans l'ex-république soviétique. L'agence de presse Reuters a publié un rapport mardi 13 décembre citant trois responsables américains. Deux des responsables ont déclaré que la décision d'envoyer les systèmes de missiles pourrait être annoncée dès jeudi, notant que l'annonce attendait l'approbation du chef du Pentagone et du président Joe Biden. Plus tôt en décembre, Politico avait cité le géant américain Raytheon, fabricant d'armes, qui produit les systèmes Patriot, affirmant que Washington envisageait de déplacer ces systèmes du Moyen-Orient vers l'Ukraine. Depuis le début de la guerre, les alliés occidentaux de l'Ukraine, dirigés par les États-Unis, ont fourni des armes avancées à l'Ukraine et imposé une série de sanctions à la Russie. Mais selon Moscou, ces mesures ne feront que prolonger le conflit. Et enfin, sachez que la France s'attend à vivre une nuit difficile en ce mercredi soir, jour de la demi-finale de la Coupe du monde de football qui doit opposer la France au Maroc. Le ministre français de l'Intérieur a annoncé mardi 13 décembre que 10 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans toute la France, dont 5 000 en région parisienne, en prévision à la demi-finale de football qui opposera la France au Maroc ce mercredi soir. Il a par ailleurs annoncé devant l'Assemblée nationale un déploiement important dans le secteur des Champs-Élysées, précisant toutefois que l'avenue ne serait pas fermée à la circulation. Samedi à Paris, 20 000 personnes s'étaient rassemblées sur les Champs-Élysées pour fêter la qualification du Maroc, puis celle de la France. Il y avait eu une centaine d'interpellations dans la capitale. Au niveau national, 170 interpellations avaient été recensées. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Dans quelques instants, nous allons vous présenter notre commentaire politique. Dans un message de condoléances à l'occasion de la mort en martyr du religieux sunnite iranien Molavi Abdelwahed Righi, le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a insisté sur la condamnation immédiate et sérieuse des criminels par les appareils concernés. Suite à l'enlèvement et l'assassinat de Molavi Abdelwahed Righi, le leader de la révolution islamique, a présenté ses condoléances et a appelé les responsables du pays à poursuivre et condamner les criminels. Le malheureux enlèvement de Molavi Abdelwahed Righi, que Dieu le bénisse, et la mort en martyr de cet érudit bienveillant et courageux m'ont attristé et ému, a déclaré le leader de la révolution islamique dans un message. L'honorable Ayatollah Khamenei a ajouté : les voyous qui ont commis ce crime sont des mercenaires maléfiques qui sont au service des ennemis du bonheur de nos compatriotes baloutches et de l'unité des ethnies iraniennes. Les appareils responsables ont pour devoir de poursuivre et de punir les criminels, et cela devrait être fait immédiatement et sérieusement. Je présente mes condoléances à la famille respectable de ce martyr et à tout le peuple du Baloutchistan, en particulier aux habitants des villes de Khash et Iranchar, et je prie pour la miséricorde de Dieu pour tous. Les responsables de la province du Sistan et Baloutchistan ont confirmé le vendredi 9 décembre l'enlèvement et l'assassinat du religieux sunnite Molavi Abdelwahed Righi par des individus inconnus. Une enquête policière est toujours en cours. Molavi Righi était le responsable des prières du vendredi de la mosquée Imam Hussein à Khash, dans la province du Sistan et Baloutchistan, située dans le sud-ouest de l'Iran. Il était également enseignant au séminaire religieux. La province du Sistan et Baloutchistan fait partie des régions les plus touchées par des émeutes soutenues par l'étranger qui ont éclaté après le décès d'une jeune femme de 22 ans, Mahsa Amini, à l'hôpital le 16 septembre, trois jours après s'être effondrée dans un poste de police à Téhéran. Une enquête a attribué la mort d'Amini à son état de santé plutôt qu'à des coups présumés de la part de la police. Les violentes émeutes, quant à elles, ont coûté la vie à des dizaines de personnes et des effectifs des forces de sécurité. Au cours des trois derniers mois, les terroristes ont incendié des biens publics et torturé à mort plusieurs membres du Basij et des forces de sécurité.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Débat du jour. En effet, ce mercredi, l'Assemblée générale des Nations unies a voté contre Israël et a exigé Israël à renoncer à ses armes nucléaires et à adhérer à l'accord de TNP. Mais est-ce que vraiment Israël commencera et acceptera à renoncer à ses armes nucléaires? En effet, ce vote de l'Assemblée générale des Nations unies a été conclu à une majorité écrasante. 149 membres ont voté pour et 6 pays contre cette résolution. Comment pourrait-on interpréter ce vote de l'Assemblée générale des Nations unies? Quelles en seront les conséquences pour Israël? Ce sont les questions que nous allons poser aujourd'hui à nos deux experts. De retour sur le plateau, nous sommes en ligne avec deux juristes internationaux, Maître Atem, Eli Atem, également Maître Arnaud Develet. Je vous dis bonjour messieurs, merci de nous avoir accordé votre temps. Alors Maître Atem, si vous voulez bien, on commence avec vous. Merci d'être avec nous pour ce débat. Alors cette résolution, Maître, appelle Israël à renoncer à ses armes nucléaires et donc à mettre fin à la prolifération d'armes nucléaires. Dans un premier temps, comment t'interprètes vous cette résolution de l'Assemblée générale des Nations unies? Est-ce que vraiment Israël renoncera à ses armes nucléaires, à votre avis?
Merci de votre invitation. Il faut peut-être rappeler la raison pour laquelle cette résolution a-t-elle été établie et puis passée au vote. Parce qu'il faut commencer par, je dirais, le début, par le commencement. Oui. L'État d'Israël, comme nous le savons tous, cette entité, comme vous l'avez dit, sioniste, c'est une entité artificielle qui a profité des pires atrocités qui ont été commises lors de la Seconde Guerre mondiale à l'encontre des communautés juives Ashkenaz en Europe, et s'est imposé en créant cet État en 1949. Il faut rappeler le sentiment de culpabilité qui pesait au niveau international, ce qui a permis à cette entité de s'ériger en État. Or, cet État s'est transformé en État, il faut le dire, terroriste, qui a d'une part occupé, bien entendu, la Palestine d'une manière totalement illégale. Donc, c'est une entité artificielle qui est une sorte de regroupement, de ramassis, je dirais, de populations, de communautés, et je passe les différents détails. Mais surtout, elle est complètement illégale, illicite, puisqu'elle occupe un territoire, mais aussi elle commet des actes internationalement illicites, ce qui conduit la société internationale, vous vous rappelez, tout d'abord la résolution des Nations Unies qui a été abrogée en 1990 et qui considérait, ou 91, qui considérait que le sionisme est une forme de racisme. Il y a eu tout un lobbying pour changer et retirer en fait cette résolution, mais aujourd'hui on se rend compte du danger que cette entité donc présente sur place, surtout maintenant avec les dernières élections qui ont permis à M. Benjamin Netanyahou d'être élu à la tête du pouvoir exécutif donc de cette entité, et qui a véritablement une menace. Donc aujourd'hui, la menace, ce n'est pas l'Iran, la menace vient d'Israël, surtout que l'Iran a adhéré d'ailleurs à ce traité, et c'est en vertu de son adhésion à ce traité qu'il y a eu toute cette polémique et ces négociations sur le nucléaire. En revanche, Israël n'a pas adhéré à ce traité. Pourquoi ? Parce qu'il se considère, grâce à son alliance avec les États-Unis, comme étant au-dessus des lois, comme étant que tout lui est permis. Il viole le droit international. Il y a une pléthore, plus d'un millier de résolutions que cette entité ou cet État, pour certains, n'a jamais respecté. Il y a eu des occupations, des violations, par exemple, du Liban, des frontières libanaises, qui ont été dénoncées à l'époque courageusement par le général de Gaulle, mais depuis, la société internationale n'ose même plus critiquer ouvertement cette attitude illicite, et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'il y a un danger effectif, et c'est la raison pour laquelle il y a cette résolution qui prend en considération le danger que présente Israël à la société internationale.
Merci pour vos explications. Je me tourne vers vous, Maître Develet. Merci d'être avec nous. Alors, Maître Atem a donné son point de vue. Vous, à votre avis, comment pourrait-on interpréter cette résolution de l'Assemblée générale des Nations unies?
Bonjour à vous tout d'abord et bonjour à toute l'équipe et à mon confrère Eli Atem. Écoutez, c'est un vieux serpent de mer. On sait très bien quelle est la situation au niveau de l'État sioniste et son programme nucléaire. L'État sioniste pratique ce qu'il appelle une stratégie, l'ambiguïté stratégique, à savoir il ne nie pas être en possession d'un programme nucléaire à vocation militaire, mais il ne l'admet pas ouvertement, justement pour que juridiquement ils ne soient pas amenés à ouvrir leurs installations à un régime d'inspection qui découlerait donc de leur signature au traité de non-prolifération. Et donc, ce faisant, effectivement, et je rejoins ce que disait Maître Atem, il se positionne exactement dans le prolongement de cet exceptionnalisme vis-à-vis du droit international. De par leur impunité dont ils bénéficient grâce au veto américain au Conseil de sécurité. Et force est d'avouer qu'on peut avoir toutes les résolutions prises à l'Assemblée générale des Nations unies jusqu'à preuve du contraire. Et bien qu'on puisse s'en lamenter, eu égard au besoin de réformer les Nations unies en tant que telles, les résolutions adoptées par l'Assemblée générale n'ont pas force de loi. Et malheureusement, c'est ce qui permet aux sionistes de faire plus ou moins tout ce qu'ils veulent et, si je puis dire, d'ignorer les milliers, effectivement c'est le cas, de résolutions qui ont été adoptées et ou proposées au Conseil de sécurité, mais ayant été confrontées au veto américain. Donc c'est une espèce de purulence qui n'en finit pas de se répandre dans la région, parce qu'effectivement, alors qu'on met la lumière sur le programme, soi-disant le programme nucléaire iranien, qui est un programme parfaitement légal, civil, la République islamique d'Iran a joué le jeu, a ouvert ses installations à l'Agence internationale atomique. Il y a eu même, et si on s'en tient au rapport compréhensif formulé tous les 4 ans par les agences de sécurité américaines, plusieurs fois des conclusions qui portaient sur le fait qu'il n'y a pas de programme nucléaire militaire en République islamique d'Iran, et que dès lors, toutes les jérémiades et autres gesticulations de quelqu'un comme Benjamin Netanyahou depuis maintenant une quinzaine d'années, de manière répétée, n'est qu'une façon pour l'État sioniste de faire obstruction et de ce qu'on appelle faire de la projection, ce qu'on appelle de la misdirection en anglais, et ce faisant, d'éviter d'avoir les agences internationales se pencher sur le fait que la seule puissance en Asie occidentale qui possède ces armes, c'est l'État israélien, et que c'est un problème dans le sens où cet État pratique une politique expansionniste qui vise sa raison d'être à étendre ses frontières. On rappellera qu'il n'y a pas de frontières établies, il n'y a pas de constitution israélienne en tant que telle. Et donc, partant de là, c'est un État qui a vocation, s'il veut survivre, selon sa façon de voir les choses, à empiéter sur ses voisins et s'accaparer des territoires et étendre son influence. Si on ajoute à ça le chantage nucléaire, comme disait Moshe Dayan à l'époque, nous voulons que le monde pense de nous en tant que chiens enragés. Je vous laisse imaginer ce que ça laisse entendre.
Merci pour vos explications, Maître Develet. Restez en ligne. Alors, Maître Atem, Maître Develet a, comme tout comme vous, a expliqué cette politique ambiguë du régime sioniste en ce qui concerne ses politiques vis-à-vis de l'arme nucléaire. On se rappelle qu'à l'époque, il y avait aussi une résolution pour la création d'une zone de dénucléarisation au Moyen-Orient qui a été votée contre par les États-Unis, le Singapour et Israël. Comment pourrait-on interpréter ce deux poids, deux mesures, non seulement du régime sioniste dans la région et dans le monde entier, mais également des instances internationales, justement comme l'ONU?
Oui, il faut partir du principe selon lequel il y a une absence du droit international public, bien entendu. Surtout aujourd'hui, il y a une hégémonie. Et quand on parle donc de la règle internationale, le droit international en général, ça reste une pure théorie. Et on voit cela sur le terrain. Les différents, je vous donne un exemple, les différentes sanctions qui sont distribuées par les États-Unis à l'encontre des pays. Donc c'est une pure violation du droit international. Aujourd'hui, il y a une, comme je le disais tout à l'heure, il y a une violation continue des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui ont une valeur obligatoire à l'encontre de l'État d'Israël. Ça n'a jamais été respecté. La même chose remarquée de la Turquie à l'encontre, donc les résolutions à l'encontre de la Turquie qui occupe le nord de Chypre, en sachant que la Turquie, c'est un allié des États-Unis. Donc ça n'a jamais été respecté. Et plein d'exemples. Nous avons vu l'invasion donc de l'Irak par les États-Unis. Et donc, il y a un élément qui est très important, c'est plus que deux poids et deux mesures. Il y a aujourd'hui des pays qui se permettent d'une manière hégémonique de commettre des actes internationalement illicites. Et c'est pour ça que je rejoins tout à fait mon confrère Arnaud Develay quand il a dit qu'Israël s'en moque du droit international, se moque également des Nations Unies, des résolutions donc des Nations Unies. C'est que, et puis je vous dis une chose, c'est que aussi, je dirais, l'appareil onusien est aujourd'hui sous la protection, sous le diktat américain depuis la fin du mandat du dernier, je dirais, véritable secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali, qui a été empêché d'ailleurs d'être réélu à cause de sa critique contre l'entité sioniste, quand cette entité a commis des crimes de guerre dans la ville de Cana, qui a eu une extermination totale de cette ville. Et quand Boutros Ghali avait critiqué cette opération d'une manière verbale et écrite, Madame Madeleine Albright lui a dit « Vous pouvez le faire oralement, mais pas du tout par écrit. » Et comme il a insisté de le faire oralement et par écrit, elle lui a dit textuellement « Ça sera votre dernier écrit aux Nations Unies. » Il y a eu toute une pression qui a été exercée sur lui pour l'évincer des Nations Unies, où la fameuse formule qui a été utilisée par lui, il voulait de moi un secrétaire et je m'étais érigé en général. Donc pour résumer, aujourd'hui c'est pas simplement deux poids et deux mesures, il y a simplement un seul poids hégémonique dans ce monde unipolaire qui est dirigé par les États-Unis. Et comme vous le savez, la politique étrangère des États-Unis est téléguidée par le principal ou les principaux lobbies qui pèsent sur la politique étrangère américaine, à savoir le AIPAC, le Anti-Defamation League, et donc ce lobby d'ailleurs pro-israélien et pro-sioniste. Alors, qu'il faut distinguer, bien entendu, des communautés juives. Il y a beaucoup de juifs, je dirais, qui sont anti-sionistes et contre cela, qu'on le pense d'ailleurs. Et puis, un dernier élément aussi important à savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand même, il y a un espoir. Cet espoir vient de ce qui se passe aujourd'hui sur la scène internationale, c'est-à-dire que la fin de ce monde unipolaire, téléguidé par les États-Unis depuis la conférence de Dayton qui a transformé les États-Unis en police du monde, et l'émergence d'un nouveau monde libre qui est constitué par la Russie, par l'Iran, par la Chine, par la plupart des pays donc, de la planète, les pays d'Afrique, les pays de l'Amérique du Sud, les pays du Moyen-Orient, les pays de l'Asie, donc tous en train de se regrouper ensemble pour renverser ce déséquilibre et faire revivre le droit international, autrement dit faire une application juste de la règle du droit international.
Merci beaucoup pour vos explications. Alors, Maître Develay, nous savons très bien que ce sont les États-Unis et les pays européens qui soutiennent les politiques hégémoniques et destructrices d'Israël dans la région. Comment se fait-il que ce sont ces mêmes États-Unis et Union européenne qui critiquent sans cesse l'Iran pour ses activités pacifiques nucléaires, pour ses prises de position même internes et aussi extérieures. Comment pourrait-on interpréter encore une fois ce deux poids deux mesures occidentales vis-à-vis de l'Iran et Israël?
Mais écoutez, je pense que c'est avant tout un signe extérieur d'une arrogance qui n'a plus les moyens de ses ambitions. Il faut savoir qu'aujourd'hui, et si on prend l'exemple de la guerre en Ukraine, la population mondiale qui est représentée par les États ayant par exemple récemment voté contre le fait de faire porter la responsabilité de la reconstruction de l'Ukraine par la Russie, c'est de 82% de la population mondiale. Donc essentiellement, quand on parle de l'Occident aujourd'hui, ou comme ils s'appellent eux-mêmes, la communauté internationale, on parle en grosso modo de 15% de la population. Et ces 15%-là sont maintenant, qui plus est, de par leur contradiction interne, sur une course qui les amène à se priver d'énergie bon marché, qui permettrait à leurs économies de rester compétitives, ce qui fait que maintenant, on va de plus en plus être confronté à une minorité nostalgique d'un pouvoir qui lui échappe pour la première fois depuis 500 ans, et qui, malgré tout, continue de penser qu'elle peut donner le la et donner des leçons au reste du monde quant à ce qu'elle considère être la norme. En fait, de plus en plus maintenant, les gens n'ont jamais été contre, par exemple, la mondialisation en tant que telle, mais l'aspect intrinsèquement américain de cette mondialisation. Les gens autour du monde ont accès maintenant à la technologie, ils ont accès à une société d'abondance eux-mêmes, et ils n'ont absolument pas l'intention de suivre des programmes dits d'énergie verte, par exemple, ou d'écologisme dément, qui visent à brider leur aspiration à procéder sur le chemin du développement pour leur peuple. Et je pense que c'est de plus en plus cette espèce de dissonance cognitive à laquelle nous allons assister, jusqu'au moment où, de toute façon, les Occidentaux, de manière générale, quand je dis les Occidentaux, ça inclut bien sûr les Néo-Zélandais, les Australiens et même quelque part un peu le Japon, mais ce sont maintenant des discours qui deviennent de plus en plus vides de sens parce qu'ils n'ont plus, encore une fois, ils sortent eux-mêmes de l'histoire, ils se sortent eux-mêmes de l'histoire pour des raisons que nous n'allons pas développer aujourd'hui, ça n'est pas le sujet, mais en tout cas, de plus en plus, ce discours n'a absolument aucune portée et ça se reflète de plus en plus dans les résolutions qui peuvent être introduites au sein de l'Assemblée générale, où on s'aperçoit en fait qu'ils parlent entre eux. C'est comme une espèce de chambre d'écho et personne ne les écoute.
Merci, Maître Develet. Alors, Maître Atem, nous avons évoqué ce discours hypocrite des instances internationales à la tête des États-Unis, le régime sioniste et aussi certains pays européens. Vous, comment interprétez-vous, comment analysez-vous ce discours hypocrite sur tous les dossiers, hein, à savoir, comme l'a dit Maître Develet, le dossier ukrainien, le dossier syrien, le dossier iranien, le dossier irakien. Donc, il y en a plein des dossiers où on voit un discours totalement hypocrite, en fait, des instances internationale et de l'axe occidental.
Qu'est-ce que vous entendez par les instances internationales ? Aujourd'hui, comme je le disais, les Nations Unies ne remplissent plus du tout leur rôle. C'est une organisation qui est devenue complètement désuète depuis la fin du mandat de Boutros-Ghali. Nous avons assisté à la mise en place, c'est même pas une élection, je dirais, à l'imposition donc de personnalités donc pour devenir les secrétaires généraux des Nations Unies, imposés par les États-Unis, parce que cette organisation a son siège, comme vous le savez, à New York, à deux pas donc, de Washington, depuis Kofi Annan jusqu'aujourd'hui à M. Guterres. Et d'ailleurs, on ne voit plus cette personnalité de secrétaire général comme l'était Boutros-Ghali. Donc, il y a aujourd'hui une mainmise totale de la part des États-Unis sur les Nations Unies. Il y a une mainmise totale des États-Unis États-Unis, également sur l'OTAN. Et nous le voyons, nous le savons, qu'aujourd'hui, l'Union européenne est également sous l'hégémonie américaine. Et il suffit que les États-Unis remuent un peu le bâton pour que les États, ces États, ou la plupart, je dirais, pour ne pas parler de l'ensemble donc des États de l'Union européenne, aient peur de ce bâton, en fait, américain. Souvenez-vous d'ailleurs le problème qui a eu lieu l'année dernière entre la France et l'Australie, quand l'Australie a résilié unilatéralement les contrats concernant les frégates les sous-marins avec la France, qui a suscité des déclarations de la part de la diplomatie française et du chef de l'État français à l'encontre, donc d'une part de l'Australie, mais également à l'encontre des États-Unis qui étaient derrière cette manipulation. Et puis même la déclaration du président français qui est menacé de sortir de l'OTAN, qu'il avait d'ailleurs traité comme étant dans un état comatique. Eh bien, cela a suscité la colère du gendarme du monde, donc de la part de Washington. Et puis la France était obligée de retourner en arrière et d'obtempérer dans son discours. Et c'est la raison pour laquelle non pas simplement les instances internationales, mais également les gouvernements qui sont inféodés à l'Union européenne, qui elle est sous l'hégémonie américaine, sont obligés d'obtempérer, de respecter l'ordre qui leur vient d'en haut. Et il faut rappeler une chose, en fait, aujourd'hui les choses ont changé, mais comme l'a très bien souligné mon confrère Arnaud Develay, aujourd'hui cette, entre guillemets, société internationale, ces instances dites, en fait, entre parenthèses, internationales, ne sont plus des instances internationales, ne représentent plus la véritable société internationale, ils ne représentent qu'une infime minorité, comme il l'a très bien dit, 15% de la population mondiale ou planétaire. Et donc d'un point de vue, je dirais, démocratique, ils ne sont que véritablement minoritaires. Et aujourd'hui, la véritable société internationale est majoritaire. C'est celle qui aspire à la liberté, c'est elle qui aspire à retrouver la souveraineté, le droit international. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'aujourd'hui, la Russie nous donne cet espoir-là et son initiative de bouleverser cet ordre international, avec grâce également à l'appui des différentes grandes nations qui veulent retrouver la règle, qui veulent, je dirais, rétablir le droit international, avec la Chine, avec l'Amérique latine, avec avec l'Afrique, avec la plupart des pays de l'Asie, avec le Moyen-Orient. Et donc, c'est notre espoir aujourd'hui de retrouver tout ce monde-là en train de constituer de nouvelles instances ou une nouvelle organisation qui va pallier l'Organisation des Nations Unies, qui sont sous l'hégémonie américaine et du fait de la situation donc de leur siège à New York, et puis sortir de cette dictature, je dirais, qui leur est infligée par la politique de Washington.
Merci. Alors, Maître Elie Hatem, Maître Arnaud Develay étaient avec nous pour ce débat du jour. Merci également à vous d'avoir suivi ce débat. Vous pourriez également revoir toutes les informations et toutes les émissions sur notre site web french.presstv.ir. Je vous dis à toutes et à tous, au revoir et à très bientôt.
Très chers amis auditeurs, merci d'être avec nous pour ce programme portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. Le commandant de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique affirme que l'Iran est en possession de missiles que les États-Unis ne peuvent même pas imaginer. S'adressant mardi 13 décembre aux participants à une cérémonie à l'université Imam Hossein à Téhéran, le contre-amiral Ali Reza Tangsiri a déclaré « Ce que l'Iran a montré dans diverses manœuvres n'est pas ce que le pays utiliserait en cas de guerre contre lui. » Aujourd'hui, nous avons des missiles auxquels les Américains ne pensent même pas, a-t-il dit. Il a noté que l'Iran était le seul pays qui a réussi à installer des missiles sur des bateaux de 6 à 8 mètres de long, soulignant que les ennemis extra-régionaux n'ont pas la capacité d'atteindre le pays par le golfe Persique, la mer d'Oman et le sang indien pour le vaincre. Le commandant iranien a déclaré que les forces américaines étaient présentes dans la région du golfe Persique depuis le début du XXe siècle. Un destroyer américain coûte 2 millions de dollars par semaine et un porte-avions coûte 5 millions de dollars par semaine et il paie pour rester dans la région, a-t-il ajouté. Se référant à l'importance des îles iraniennes situées dans le détroit d'Ormuz, le contre-amiral Tangsiri a rejeté le plan de l'ennemi de prendre le contrôle des trois îles iraniennes dans le golfe Persique en disant « Nous ne permettons pas à l'ennemi de nous enlever notre terre que nos ancêtres avaient préservée. » Il a ajouté que l'Iran ne permettrait jamais à personne de faire des commentaires sur une partie du sol du pays. En réaction à une déclaration conjointe publiée par la Chine et les États du Conseil de coopération du Golfe Persique, CCGP, à la fin de leur sommet de vendredi à Riyad, en Arabie Saoudite, Tangsiri a déclaré que les trois îles appartenaient à l'Iran et qu'il resterait sans aucun doute une partie de son intégrité. Il a ajouté que l'Iran ne commettrait d'actes d'agression contre aucun pays, mais qu'il ne permettrait non plus à personne de parler de son intégrité territoriale. Ces îles appartiennent à l'Iran, et ceux qui prétendent le contraire devraient revoir l'histoire. Si nous revenons à l'histoire, Bahreïn devrait également retourner en Iran, a déclaré le contre-amiral Tangsiri. Dans leur déclaration conjointe, les dirigeants de la Chine et des États du CCGP ont affirmé leur soutien à ce qu'ils ont appelé tous les efforts pacifiques, y compris l'initiative et les efforts des Émirats arabes unis, pour parvenir à une solution pacifique à la question des trois îles du Golfe Persique dans le cadre de négociations bilatérales. Pendant de nombreuses années, les Émirats arabes unis ont revendiqué sans fondement la propriété des trois îles d'Abu Moussa et les grandes et petites tombes, fermant les yeux sur le fait que toutes les réalités historiques et d'innombrables documents prouvent qu'elles appartiennent à l'Iran. En réaction à la déclaration conjointe, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré samedi que les trois îles du Golfe Persique étaient des parties intégrantes du territoire de l'Iran, soulignant que la République islamique d'Iran ne transigerait jamais sur son intégrité territoriale. Le ministère iranien des Affaires étrangères a condamné le meurtre d'une adolescente palestinienne par l'armée israélienne. Les partisans occidentaux du régime de Tel Aviv sont responsables des atrocités incontrôlées israéliennes qui ciblent quotidiennement les Palestiniens, a-t-il affirmé. Il n'y a pas un jour où le monde n'entend pas parler du martyr, de la blessure ou de la captivité d'enfants, d'adolescents et de jeunes palestiniens par le régime d'apartheid sioniste, a tweeté mercredi 14 décembre le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Nasser Kanani. Non seulement Israël, mais aussi les régimes américains, anglais, français et allemands, en tant que principaux partisans du régime sioniste, sont responsables de ces atrocités et devraient comparaître sur le banc des accusés, a-t-il dit. Les propos de Kanani interviennent deux jours après que Jana Majdi Zakarna, 16 ans, a été tuée d'une balle à la tête à Jenin, dans le nord de la Cisjordanie occupée par les forces israéliennes. L'armée israélienne affirme que la victime a été tuée lors d'affrontements entre les forces israéliennes et les Palestiniens. Un premier examen de l'affaire a révélé une forte probabilité que Zakarna a été tuée par le tir accidentel des forces israéliennes qui avaient été dirigées sur des hommes armés palestiniens pendant la bataille. Le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à une enquête sur la mort choquante de l'adolescente palestinienne. « Ce meurtre, aujourd'hui, est en effet choquant », a déclaré Stéphane Dujarric aux journalistes à New York. Réagissant à la tragédie, le mouvement de résistance palestinien Hamas, basé à Gaza, a déclaré que le ciblage des mineurs était un crime odieux, appelant à une mobilisation massive contre les forces militaires israéliennes et les attaques des colons dans les territoires occupés. Les États-Unis s'opposent aux efforts de la chaîne de télévision qatari Al Jazeera, qui a annoncé le mardi 6 décembre avoir remis au bureau du procureur de la Cour pénale internationale CPI un dossier incriminant l'armée israélienne pour la mort de sa journaliste vedette palestino-américaine Shirin Abu Akleh, tuée en mai. La demande de la chaîne Al Jazeera auprès de la CPI est déposée 6 mois après sa mort, période pendant laquelle l'équipe juridique d'Al Jazeera a mené une enquête complète et détaillée sur l'affaire et a découvert de nouvelles preuves basées sur plusieurs témoignages oculaires, l'examen de plusieurs éléments de séquence vidéo et des preuves médico-légales. Vêtue d'une veste de presse, Abu Akleh, 51 ans, a été assassinée d'une balle à la tête alors qu'elle couvrait un raid militaire israélien sur un camp de réfugiés à Jenin, dans le nord de la Cisjordanie occupée, le 11 mai. Plus tard, de brutales forces spéciales israéliennes ont attaqué le cortège funèbre de Shirin Abu Akleh sortant de l'hôpital Saint-Joseph. Tel Aviv a refusé d'ouvrir une enquête criminelle sur cet assassinat. Il a par ailleurs déclaré qu'il ne fournirait aucune coopération avec une telle enquête. Washington s'oppose depuis longtemps aux efforts menés par les Palestiniens pour dénoncer les exactions israéliennes auprès des organismes internationaux, y compris les Nations Unies et la CPI. Il utilise toujours son droit de veto pour bloquer les résolutions anti-israéliennes au sein de l'ONU. De nouvelles preuves et une vidéo montrent que la journaliste palestinienne et ses collègues ont été directement visés dans un meurtre délibéré par les forces d'occupation israéliennes, lit-on dans le communiqué de la chaîne Al Jazeera. Les preuves montrent que ce meurtre délibéré faisait partie d'une campagne plus large visant à cibler et faire taire Al Jazeera. Al Jazeera réitère son engagement à saisir la justice pour Abu Akleh et à explorer toutes les voies pour garantir que les auteurs soient tenus responsables et traduits en justice. De multiples enquêtes menées par des organisations indépendantes et des médias ont déjà conclu que Shirin Abu Akleh avait été délibérément tuée par les forces israéliennes. Les responsables palestiniens et la famille d'Abu Akleh estiment qu'elle a été tuée délibérément par les forces israéliennes. Plus de 11 000 enfants yéménites ont été tués ou mutilés depuis le début de l'agression menée en 2015 par l'Arabie saoudite contre ce pays appauvri, selon le directeur exécutif de l'UNICEF. Des milliers d'enfants ont perdu la vie, tandis que des centaines de milliers d'autres risquent de mourir de maladies évitables ou de famine, a déclaré Catherine Russell lundi 12 décembre. Le véritable bilan de ce conflit est susceptible d'être bien plus élevé, a déclaré Russell, décrivant la situation comme étant la pire crise humanitaire au monde. Des centaines de milliers de Yéménites, y compris des femmes et des enfants, ont été tués depuis le début de la guerre, lorsque les forces saoudiennes les bombardent ou leur tirent dessus, ou les tuent indirectement par des explosions de mines, de l'eau insalubre, des épidémies, la famine, le manque de médicaments et de traitements dus au siège imposé. L'Arabie saoudite a lancé la guerre dévastatrice contre le Yémen en mars 2015, en collaboration avec ses alliés arabes et avec le soutien militaire et logistique des États-Unis et d'autres États occidentaux, ainsi que du régime sioniste. L'objectif était de réinstaller le régime favorable à Riyad, d'Abd Rabbo Mansour Hadi, et d'éliminer le mouvement de résistance populaire Ansar Allah. Le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale, CERD, s'est dit préoccupé par le traitement raciste du régime bahreïnien envers la communauté chiite, qui fait depuis longtemps l'objet d'une répression systématique de la part du régime au pouvoir d'Al-Khalifa. Dans son examen de 2022 du Royaume de Bahreïn, le CERD a déploré le bilan de Manama en matière des droits de l'homme sur les questions liées à l'espace de la société civile et aux défenseurs des droits de l'homme, à la traite des êtres humains et aux travailleurs migrants, aux lois sur la nationalité et aux droits des communautés Baharna et Ajam. Le comité a pointé le sort de la population locale de Baharna et d'Ajam, des autochtones qui s'étaient établis dans le pays bien avant l'arrivée de la famille dirigeante et s'est dit préoccupé par les informations faisant état d'une discrimination structurelle en droit à l'encontre de ses résidents. Bahreïn a adhéré à la CERD en mars 1990. Depuis lors, le comité a procédé à 5 examens des conditions à Bahreïn, montrant à chaque fois que le royaume a encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir prétendre avoir mis en œuvre la Convention et respecter son droit international des droits de l'homme. Voilà, ainsi s'achève ce programme. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine.
Mm-hmm.